bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vulnérabilité qui s'appelle Dirty Code. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs No Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulot. Alors Vlad, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de cette vulnérabilité ?
Oui, alors rapidement, c'est une vulnérabilité qui avait été identifiée par Linus Torvald, donc le papa de Linux, aux alentours de 2007. Il avait essayé de la corriger, mais n'avait pas trouvé de moyen optimum et vraiment efficace pour corriger la vulnérabilité. Donc il a un petit peu laissé traîner ça. C'est ressorti récemment, découvert par Phil Oyster, un chercheur en sécurité chez Red Hat. Et donc ça a été corrigé très récemment et... Et Nicolas va nous faire le détail de cette vulnérabilité, nous présenter les détails de cette vulnérabilité.
Oui, bon, je ne vais rien faire du tout parce que tout est documenté en ligne sur un super site. On peut dire que c'est une faille avec un logo, un site web. Il n'y a pas de musique, mais par contre, il y a une boutique où tu peux acheter des mugs et des t-shirts. Et donc, dirtyco.ninja, tout est expliqué en détail, mais... Effectivement, le CO, donc Copy and Write, c'est une opération, enfin c'est une optimisation des systèmes d'exploitation qui permet de faire de la déduplication en mémoire. Donc en fait, quand tu charges par exemple une DLL ou un exécutable, enfin surtout une librairie partagée, tous les processus vont charger la libc, mais il ne va pas exister une copie de la libc dans chaque processus. En fait, il existe une seule instance de la libc, et quand un processus essaye éventuellement d'écrire dans une page, au niveau du processeur, elle est marquée comme dirty, et donc à partir de là, le système va en faire une copie qui n'existera que dans le processus qu'il a modifié. Je ne sais pas si c'était clair comme explication.
Non, c'était clair, mais on peut réexpliquer. Ce qu'il faut voir, c'est que l'espace mémoire est partagé entre plusieurs processus, en étant en lecture seulement, et quand au moment où il y a un des processus qui veut écrire dedans, alors là, c'est dupliqué pour lui tout seul.
C'est ça. Donc en fait, apparemment, alors la faille d'origine date d'un problème avec le système IBM S390, parce que pour arriver à faire ça, il y a quand même besoin d'avoir du support hardware, et donc apparemment, il y avait un problème sur S390, ce qui fait que il y a eu des patchouilles jamais vraiment testées, et donc à la fin, ce qui se passe, c'est qu'il y a une race condition au cas où une page fault intervient au moment où le système est en train d'écrire dans la page.
Alors, Nico, une race condition.
Oh, tu vas pas m'obliger à tout traduire en français quand même.
Non, pas traduire, non, mais juste expliquer.
Non, mais c'est une opération qui devrait être atomique, c'est-à-dire qui devrait être du début jusqu'à la fin sans s'arrêter, qui malheureusement peut être coupée au milieu.
Exactement. S'il y a une faute de page qui intervient, en fait, il peut arriver que la page a été modifiée, mais que le bit n'a pas été positionné correctement. Ou en tout cas, le système d'exploitation n'a pas pris en compte que le bit avait été changé. Et donc, à partir de là, il considère que la page est toujours vierge, alors qu'en fait, elle a été modifiée, et que du coup, la page modifiée apparaît dans tous les processus qu'il utilise. Alors, en fait, c'est pas... Donc, du coup, ça implique de gagner une... une condition temporelle. Donc, sur n'importe quel CPU moderne, c'est extrêmement facile, puisqu'on peut lancer plusieurs threads qui s'exécutent physiquement en parallèle sur la machine. Et par contre, apparemment, je crois pas qu'il existe d'exploit qui fonctionne si tu as vraiment un seul fil d'exécution physique sur la machine. Donc à partir de là, l'idée c'est d'aller écrire dans une page qui est censée être en lecture seule, en espérant qu'en fait la modification soit prise en compte. Alors il y a des astuces qui vont permettre d'améliorer l'efficacité de l'opération. En particulier, la quasi-totalité des attaques utilisent un appel système qui s'appelle MAdvise et qui indique au système que le processus n'aura pas besoin de la page en lui passant le flag don't need. Et donc à ce moment-là, ça fait une certaine optimisation dans le noyau qui fait que c'est beaucoup plus facile de gagner la condition temporelle. Et on va dire en une dizaine d'appels système, on peut arriver à écrire dans une page en lecture seule. Ce qui prend quelques microsecondes sur un système, quoi. C'est pas comme la dernière... Il y a certaines conditions, il y a certaines race conditions qui prennent une demi-heure à exploiter parce qu'il faut vraiment avoir une convergence de planètes, tomber entre deux instructions assembleurs pour arriver à exploiter. Alors que là, c'est quasiment instantané sur n'importe quel système.
Et alors, cette vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle permet ?
Elle permet juste de passer route. Bon, c'est bien, mais enfin, c'est pas comme exploiter à distance. Hein.
Ah, c'est déjà pas.
Je suis pas d'accord avec toi, Hervé, parce que c'est une vulnérabilité qui marche aussi dans les conteneurs. En fait, c'est l'appel système sous-jacent est extrêmement simple. En fait, tu fais un mmap, en gros, donc ce qui est autorisé dans n'importe quel contexte d'exécution, et tu peux écrire dans une page qui est censée être en lecture seule. Donc tu peux passer route par diverses méthodes, par exemple en allant écrire dans la zone VDSO ou en allant modifier une copie d'Alipc qui après tu vas faire exécuter à ping ou à n'importe quel binaire C2ID qui va du coup exécuter ton code modifié. Enfin, c'est pas très important. Mais du coup, ça marche si tu es à l'intérieur d'un Docker, par exemple. Parce que ça fait partie, ou même si tu as une politique seccomp BPF assez restrictive, ou à partir du moment où tu as accès à mmap, ce qui est le cas de tout le monde quasiment, enfin tout processus, tu peux passer route.
Ça veut dire concrètement que l'exploitation d'une application qui tourne dans un Docker peut résulter en l'exploitation du socle d'OS qui fait tourner elle et ses voisines, donc l'impact n'est pas négligeable.
Oui, donc on peut s'échapper des machines virtuelles.
Pas des machines virtuelles, des conteneurs. Mais ça veut dire que si tu as par exemple de l'OpenVZ, est-ce que dans ce cas-là tu peux t'échapper ? Parce que c'est pas une machine virtuelle, là.
Non, c'est un conteneur. Enfin, c'est une technologie de virtualisation, de paravirtualisation. Donc, ouais. J'avoue que je sais pas, mais je vois pas ce qu'il. À partir du moment où en fait, le noyau est unique, où il n'y a pas plusieurs instances du noyau, par contre, si tu fais du user mode Linux, là, je crois qu'il démarre une autre instance du noyau en espace utilisateur, et donc potentiellement, tu n'es pas vulnérable. Mais ce sera à vérifier.
Donc ça ne permet pas de faire une évasion d'une machine virtuelle, mais par contre, tous les systèmes de virtualisation par conteneurisation ou par virtualisation, là, tu sors.
Dès que le noyau est partagé.
Ouais.
Et ce qui est réellement intéressant dans cette faille, c'est qu'effectivement, elle existe depuis, 2005, 2007
2007.
Enfin, depuis les noyaux 2, 6, quelque chose. Et donc, potentiellement, aujourd'hui, tout système embarqué, objet connecté, kiosque, n'importe quel appliance qui fonctionne avec du code qui n'est jamais mis à jour est vulnérable à une élévation de privilèges locales.
Android a été mis à jour.
Android a été mis à jour, bien sûr.
Aujourd'hui, le jour de l'enregistrement.
Enfin, Android, ok, mais est-ce que les téléphones qui tournent sous Android ont été mis à jour ? Ça, c'est une autre question. Hein.
Oui, mais s'ils ne sont pas à jour, ils sont vulnérables à plein d'autres trucs comme Towel Root, etc. Ouais. Donc, c'est pas. Voilà. Si c'était pas à jour depuis un an, tu as d'autres problèmes, quoi.
Oui. Tous les problèmes stage fright.
Mais la technique elle-même, c'est une vieille technique. Là, aujourd'hui, on est dans l'écriture de la mémoire. Mais bon, dans les années 80, pour passer route sous Unix, on faisait la même chose. Sauf que c'était sur des fichiers C2ID. Dès l'instant qu'on avait des appels système, certains appels système qui n'étaient pas atomiques, eh ben on arrivait à profiter de ce type de conditions pour écrire dans des fichiers SUID.
Moi, je crois quand même, en matière d'exploitation Linux, il y a deux catégories de failles. Il y a les failles où tu n'as pas besoin de code, donc tout ce qui est telnet-fruit, ldpreload, etc. Et tu as les failles où tu as besoin de shellcode pour exploiter. Parce que du coup, là, ça veut dire que si l'attaquant n'est pas en position de pouvoir exécuter du code sur ta machine, il peut pas déclencher la faille.
Au début, j'ai cru que tu allais nous dire il y a les bonnes failles, les mauvaises failles. La bonne faille, c'est celle que tu arrives à exploiter. Et la mauvaise faille, c'est celle que tu arrives à exploiter, mais c'est une mauvaise faille. C'est ça.
Bah, bien sûr, bien sûr. Non, mais des bonnes failles, elles se comptent sur les doigts d'une main. Je veux dire, c'est la CRC Compensation Attack sur SSH.
L'exemple que je viens de donner, c'est ça se fait avec du shell script. Donc, il n'y a pas besoin d'être capable de télécharger du code ou de compiler sur la machine cible.
Et les serveurs web mutualisés ?
Ça dépend du niveau de mutualisation. Si jamais. En supposant que tu donnes accès à PHP, par exemple, après, certaines fonctions PHP peuvent être restreintes. Mais si l'utilisateur peut créer des fichiers sur disque, faire un chmod pour les exécuter et ensuite appeler la commande système, par exemple, c'est sûr que tu es vulnérable. Enfin, je crois même pas que des patchs de type GR Security puissent te protéger contre cette faille. tellement elle est dans le cœur du système d'exploitation, dans la gestion mémoire par le kernel. C'est quasiment le seul truc que le kernel doit faire correctement. Quoi.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire là pour un webmaster en fait, qu'un serveur web mutualisé
sur lequel il hébergerait des podcasts sécurité, c'est ça?
Par exemple.
Ah, si tu veux être sûr.
C'est entièrement entre les mains de l'hébergeur.
Oui, si t'es pas root sur la machine, tu peux rien faire. Si t'es root, tu peux faire deux choses. Soit passer à une version de noyau à jour, ce qui est quand même largement recommandé. Soit maintenant, t'as des systèmes pour patcher à la volée ton noyau. Je sais plus comment ça s'appelle, Casplice ou un truc comme ça. Bon, c'est assez expérimental, mais en gros, ça permet d'appliquer des patchs au noyau sans rebooter la machine. Si vraiment t'as un système de au dispo critique que tu peux rebooter qu'une fois par an, et que tu as quand même des besoins de patcher cette faille, ça peut éventuellement se faire, mais bon. Globalement, il vaut mieux recompiler son noyau et installer un nouveau noyau. Quoi.
Et tous les fournisseurs de Linux proposent le correctif de sécurité.
Je ne sais pas. Parce que la faille est tellement ancienne, je sais.
Debian, enfin tous.
Les grandes distribs, oui, mais quand ce sont les hébergeurs, comme c'est beaucoup le cas, qui font leur propre kernel optimisé, ça prend un peu plus de temps.
Ah ben, un hébergeur est chargé, capable de s'en occuper lui-même. Quand il fait son kernel, il assume jusqu'au bout.
Et t'as pas mal de box et d'appliance aussi qui tournent avec des noyaux 2.6 parce que la config a été optimisée aux petits oignons, ils ont des modules, etc., qu'ils ont jamais réécrits. Et eux, je sais pas jusqu'à quel point le patch a été backporté, parce que maintenant il y a des notions de kernel avec support à long terme. Donc je crois que le 3.13 par exemple est un kernel pour lequel il y a un engagement à backporter les patchs de sécurité, mais sur un 2.6 quelque chose, aujourd'hui je sais pas jusqu'à quel point tu peux être sûr que la faille va être corrigée un jour, quoi. Non, Christophe, t'as l'expérience là-dedans ou...
Non, pas vraiment, mais concrètement, il y a tellement de 2.6 dans la nature, dans l'embarqué, qu'il y a quelqu'un qui va faire le travail. Après, est-ce que ça va être pour sa version de Linux embarquée, renommée, cachée, ou est-ce que ce sera rendu public ? Difficile d'avoir du 2.6, il y en a vraiment encore beaucoup, beaucoup. Hein. C'est un peu regrettable, mais c'est abondant. Mais pour revenir sur la question que posait Johan, elle est intéressante, c'est toutes ces failles importantes d'escalade de privilèges. Ça veut dire que dans les environnements partagés, donc typiquement l'infogérance, cloud, etc., on est à la merci du code de ses voisins qui est le plus faible, qui va permettre de faire une exécution locale et de là l'escalade. Et aucune mesure de compartimentation locale ne marche plus, sauf éventuellement des VM. Mais là, effectivement, je pense que les gens qui ont leur propre kernel Linux, déjà, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne vont pas être au courant parce qu'ils ne font pas de veille de sécurité. Et pour des caméras IP ou des choses comme ça, ce ne sera jamais fait. Pour des, je ne sais pas, maintenant, on commence à trouver des automates industriels avec des noyaux Linux sur lesquels il y a des patchs maison et éventuellement des patchs temps réel, etc. Ça va prendre un temps fou et de toute façon, les patchs ne sont jamais appliqués parce que personne n'a envie d'avoir ce genre de problèmes dus aux mises à jour. Donc, comme tu le dis assez souvent, hein, Nicolas, il y a des choses qui ne sont jamais mises à jour, qui tournent avec des Linux et qui seront vulnérables pour toujours jusqu'à la fin de vie du produit. À commencer par tous les Android qui ne sont pas des Nexus ou des Pixel.
Et finalement, en dehors des cas des box, où peut-être être administrateur de sa box à partir d'un shell est intéressant, sur tous ces systèmes, caméras, etc., est-ce qu'il y a vraiment des systèmes sur lesquels ça change quelque chose ? À partir du moment où on a déjà accès au flux de la caméra, on a besoin d'avoir accès à quoi de plus en étant route ?
Ah bah non, mais là, on se parle de botnet. Parce que effectivement, si tu peux accéder au flux vidéo d'une caméra parce qu'il y a un endpoint accessible sans authentification, bon, tu peux regarder dans la caméra, mais c'est tout. Par contre, les dernières instances de Mirai, enfin celles qui ont attaqué Deutsche Telekom, par exemple, exploite une faille en fait dans le protocole TR64, si je dis pas de bêtises, qui permet en fait de pousser des configurations sur la box. Donc en théorie, la configuration que tu peux pousser, elle est assez limitée, mais apparemment il y a un fournisseur, il y a une librairie qui aurait une vulnérabilité au niveau du démon NTP, et à partir de là tu peux exécuter des commandes shell en poussant au lieu de spécifier l'adresse IP d'un serveur NTP, en gros tu fais point virgule binsh et tu peux exécuter une commande, quoi. Et à partir de là, bon, effectivement, si tout est route sur la box, c'est terminé. Par contre, si le gars fait un minimum de compartimentation, que ça tourne avec un démon NTPD ou un truc comme ça, du coup, là, via cette attaque, tu peux facilement passer route et gagner de la persistance sur la box. Après, ça, ça va... L'efficacité de l'attaque va réellement dépendre de l'écosystème. Effectivement, si t'es déjà route de base et que tous les process sont route, ça va pas te servir à grand-chose. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que tous ces gens qui fabriquent des appliances, ils sont... Souvent, ils sont limités par les environnements de développement qu'ils ont à disposition. Je pense par exemple à CrossTool, tu peux en trois clics télécharger une certaine version de GCC, une certaine version de noyau, une certaine version de libc, etc. et construire des environnements ad hoc. Et en fait, tout ça est dépendant. Alors, il y a d'autres fournisseurs, je ne sais pas si on peut parler de Mentor par exemple, qui maintient Mentor Graphics, qui maintient un compilateur ARM, mais en fait, tout est lié ensemble, c'est-à-dire que. Il y a une certaine version de l'ABI, une certaine version du compilateur GCC, une certaine version de la libc, et tu ne peux pas faire évoluer ton noyau indépendamment du reste. Donc, on ne va pas non plus jeter complètement la pierre aux gens qui fabriquent de l'embarqué, parce qu'eux-mêmes, en fait, ne fabriquent rien et utilisent des SDK fournis par les fournisseurs de chips, enfin de systèmes on chip et autres, quoi.
Avant le produit grand public, il y a même un échelon intermédiaire, souvent qui sont des intégrateurs qui collent leur marque sur des kits qui sont souvent faits en Chine, où là, effectivement, il y a eu l'assemblage de l'OS avec la carte électronique, etc. Mais c'est pour ça que quand il y a des failles dans ce genre d'environnement, on la retrouve sur plein d'environnements similaires. C'est souvent parce que il y a plusieurs marques qui vendent la même chose avec quelques variantes customisées. Et du coup, la marque ne maîtrise pas parce qu'elle achète un kit hardware plus environnement logiciel à peu près complet sur lequel il rajoute juste une couche de personnalisation graphique. L'intégrateur du logiciel et de l'environnement électronique, il est souvent en Chine. Et quand un produit est sorti de sa fabrication, il passe au produit suivant et il n'y a pas beaucoup de correctifs. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne contrôlent pas grand-chose dans ce genre de chaîne. Hein. Surtout pour l'équipement grand public, quand on parle d'équipement embarqué sur des choses, des types des véhicules, des choses comme ça, il y a une chaîne qui est maîtrisée, mais quand c'est du bas de gamme grand public, des petits routeurs à 100 euros, des caméras à 50 euros, des choses comme ça, clairement, celui qui vous revend le produit ne sait pas forcément tout ce qu'il y a dedans et comment c'est fait. Et alors, pour faire une mise à jour de kernel dedans, ça prend du temps, quoi.
C'est exactement ce que Bruce Schneier décrivait dans son article sur l'Internet des objets, où il dit qu'en gros, le problème, c'est que c'est la responsabilité de personne. Ni celui de l'acheteur, ni celui du vendeur, ni celui d'intégrateur, ni celui du fabricant. Enfin, en fait, personne n'a d'incentive à corriger le produit, parce que celui qui bouge, c'est celui qui va avoir tous les problèmes de bugs, de support, etc. quoi.
Jusqu'à qu'il y ait une législation qui l'impose, et au minimum l'intégrateur sera responsable.
Ouais, c'est en discussion à l'ENISA ou à la FTC, mais bon, difficile de savoir ce que ça va donner.
Oui, puis il faudra vérifier que dans la qualification des prestataires de cloud, cette prise en compte et cette mise à jour, y compris quand on fait son propre noyau, sera bien prévue.
Là, tu fais un teasing sur un épisode ultérieur, Hervé.
Bon, eh bien, vous voulez rajouter des choses ?
Je pense que à la limite, les appareils embarqués, ils sont au-delà de la récupération en termes de bugs. De toute façon, souvent, ce qui est développé dessus est suffisamment, tout tourne en route, donc il n'y a rien à faire. Une élévation de privilège ne va pas servir à grand-chose, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un bug qui touche quand même tout ce qui est cloud en plateforme as a service, parce que ça fonctionne avec des API et le fait de faire tourner dans des containers telle ou telle application. Et s'il y a un bug dans des trucs qui ne sont pas forcément proprement développés, ou s'il y a un de vos voisins qui est mal développé, ça rend tout le monde vulnérable. Donc c'est intéressant ce genre de bug parce que ça attaque directement un business model qui est quand même aujourd'hui, construisez votre code chez vous et faites-le tourner sur une plateforme dont vous ne vous occupez plus du hardware. Et on voit que des bugs concrètement, des vulnérabilités concrètement qui permettent de compromettre tous les gens avec qui on partage l'environnement, elles existent, en plus elles traînent très longtemps quand même. La fenêtre d'exploitation, je ne sais pas quand elle a été, quand ça a pu être découvert par des attaquants un peu hostiles, mais ils ont eu 10 ans devant eux pour s'amuser avec. Donc Ça veut dire que dans les 10 dernières années, ce type d'environnement était exploitable et l'est sans doute encore parce qu'il y aura d'autres bugs. Donc ça montre un petit peu les limites de ce genre de choses qui est très à la mode, où effectivement, bon, Docker en est la star, hein, mais où on vous dit, bah, vous déployez votre application, vous ne vous préoccupez plus du hardware, c'est une occupation dépassée. Et en plus, ce sont souvent des environnements où quand on veut savoir quelles sont les garanties de sécurité, ce n'est pas toujours évident. Donc c'est assez intéressant parce que ça touche quelque chose qui est vraiment ce vers quoi se tournent beaucoup d'organisations pour développer du nouveau logiciel aujourd'hui. Et je trouve que le bug est intéressant sur le plan technique, mais c'est surtout une bonne illustration des risques qu'il y a à partager son environnement.
Il est aussi très intéressant dans le délai, parce que finalement, on ne sait pas depuis quand quelqu'un utilise éventuellement cette faille. Et celui qui l'a trouvé dit qu'il l'a vu passer dans des paquets HTTP, mais finalement, quelle a été la chance pour trouver cette bug et comment ça se fait qu'on n'ait pas trouvé plus tôt, et si ça se trouve, on aurait pu ne pas la trouver encore pendant des années.
Oui, parce qu'apparemment, c'est pas très clair. Hein. Le gars dit qu'en fait, il fait du full packet capture sur... C'est une sorte d'hébergeur, si j'ai bien compris. Il fait du full packet capture tournant sur son trafic. Et on peut supposer qu'il a détecté une compromission, quelque chose comme ça. Et à partir de là, il a été capable de retrouver le binaire ou l'attaque qui, à partir de ces paquets de capture, et de la remonter. Donc apparemment, c'était comme exploité dans la nature. Quoi. Mais bon, de ce point de vue-là, pour le coup, c'est pas... L'historique de la faille reste à faire. Quoi. Je sais pas s'il y a des historiens de l'informatique qui s'intéresseront à ça un jour, mais... Mais je crois que l'autre point intéressant, c'est que...
Elle laisse pas de traces. Ce qu'on a oublié de dire, c'est ça. C'est que c'est aussi... une exploitation qui laisse aucune forme de trace. Et donc, s'il y a des gens qui s'en servent depuis longtemps, on ne peut pas voir que ça a été le cas.
Alors, les codes d'exploitation publique sont assez instables, en particulier quand tu vas commencer à les modifier du code dans la libc ou dans VDSO. Tu peux assez rapidement crasher le système. Apparemment, il y a des petites optimisations qui permettent d'essayer de rendre ça un peu plus stable, mais bon. Après, oui, c'est sûr que si tu as un système qui fait un carnet de panique ou un process critique qui plante, tu vas pas forcément investiguer à chaque fois, quoi. Mais ouais, l'autre point intéressant, c'est que cette faille, finalement, c'est une parmi une longue liste, parce qu'à l'heure où on se parle, apparemment, il y a aussi une faille, une nouvelle faille encore sur la gestion des sockets réseau dans Linux. Et donc... concrètement, malgré toutes les avancées qu'on a pu faire en sécurité informatique, des choses aussi fondamentales que la gestion mémoire ou TCP/IP, on n'est pas encore capable aujourd'hui d'assurer que c'est sans bug dans des systèmes qui sont très largement utilisés dans le monde et totalement critiques. Quoi. Et des failles comme ça, il y en aura probablement d'autres.
Surtout pour du logiciel qui est ancien. Qu'est-ce que ça va être avec IPv6 ?
C'est pas ancien IPv6 maintenant ?
En fait, c'est 20 ans d'IPv6.
Et Vladimir, toi qui as regardé le code source, la faille de sécurité, elle se voyait dans le code source ou pas du tout ?
Enfin, non, clairement, c'était pas trivial. La personne qui a regardé le code l'explique. Quand t'es pas vraiment spécialisé, quand tu connais pas par cœur tous les branchements fonctionnels, c'est vraiment pas du tout trivial. Y a un petit endroit où la personne explique tous les branchements et les suites d'appels des API. Et c'est pas du tout trivial. Après, est-ce qu'avec un outil... Oui.
Oui et non, ça veut juste dire que le code est inauditable. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils d'analyse statique ou de preuves de programme ou autres qui ne savent pas justement gérer les problèmes de conditions temporelles parce que ça fait exploser le modèle. Quoi. Tu peux arriver à prouver qu'une opération s'exécute de A à Z, mais si tu as deux opérations concomitantes qui manipulent le même objet, comment tu fais pour prouver que, quel que soit l'ordre d'exécution, l'objet va être dans l'état désiré à la fin ? C'est des problèmes qu'aujourd'hui, les analyseurs statiques ont beaucoup de mal à régler.
Et puis, c'est un problème de fond, puisque dans nos critères de sécurité, on a disponibilité, intégrité, confidentialité, auditabilité. On oublie ce fameux critère d'homogénéité.
on peut atteindre absolument tous nos objectifs de sécurité, on met deux choses en même temps et tout est cassé. Donc l'homogénéité et cette gestion du temps, comme tu dis Nico, ça c'est la clé du succès de la sécurité.
D'où la sécurité est un succès.
Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Hein.
Non, avant de conclure, Vlad.
Ah oui.
C'est l'heure de la minute fail.
Bon, encore une fois, une micro-minute fail. Donc je rappelle le principe du fail qui est de présenter en fait un incident passé de sécurité, voire infrastructure, en prenant du recul avec humour, mais le principe ce n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier quelques éléments. Bon là j'ai pas modifié beaucoup d'éléments. Donc c'est une grosse entreprise qui a décidé de mettre en place un espace d'un peu plus de 100 mètres carrés, découpé en plusieurs petits espaces de réunion en libre service et permettant d'accueillir en gros jusqu'à une soixantaine de personnes. Donc bien entendu l'espace doit être couvert en Wi-Fi. Et donc la personne en charge de l'architecture Wi-Fi fait le magnifique calcul suivant. Il y a 60 personnes maximum, une borne Wi-Fi est connectée au réseau en gigabit Ethernet. Il faut que chaque personne ait au moins 100 mégabits. Donc en gros, je peux mettre 10 personnes par borne Wi-Fi, donc je déploie 6 bornes Wi-Fi dans l'espace. Super calcul, hein, belle étude de couverture. Bien sûr, lors de la mise en prod, problème d'interférence, de performance, enfin une catastrophe. Et puis, il a juste fallu faire une véritable étude de couverture pour mettre au final deux bornes. Et puis voilà, tout marchait très très bien. Voilà.
Bon, et t'as fait quoi avec les quatre bornes en spare? Tu me les envoies. Hein.
T'en as besoin de 4 et ça va faire des interférences. Et on va faire un autre fail la semaine prochaine.
Mais non, parce que j'ai 4 maisons.
Donc, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.